hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad brother's wall.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sappho, 19e, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Devant sa chambre, comme il le fait tous les soirs, et il lui dit
« Françoise, j'aimerais rentrer. »
« Vous n'y pensez pas, mon ami.
Je suis votre mari
et nos conventions.
Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un fils en parfaite santé.
J'ai une femme qui a eu un fils d'un autre homme. Moi aussi j'en veux un. »
Elle hausse ses épaules et lui dit « Vous êtes ridicule !» Et elle rentre dans sa chambre. Et il entend le déclic de la targette. Cela le rend furieux. Il tourne la poignée de la porte.
« Ouvrez, Françoise !»
Rien. Il est furieux. Ouvrez ou je défonce la porte.
Il va cogner la porte avec son épaule.
Il cogne, cogne, cogne.
Salope, tu l'auras voulu.
Et avec un grand coup, la porte a cédé. Le choc a failli le faire tomber.
Il la voit dans le lit, qui se protège des draps. Il fonce sur le lit.
Il lui arrache les draps qui tombent à terre.
Elle est terrifiée. Il se couche sur elle. Elle se débat, gifle. Il lui soulève la chemise de nuit. Elle serre les jambes. Il lui écarte, lui arrache sa culotte, se déculotte. Elle se débat, lui mord, lui gifle, lui donne un coup de poing au visage. Elle reste KO quelques secondes. Il a eu le temps de la prendre. Une fois qu'elle a repris ses esprits, il s'est introduit en elle. Elle s'est laissée faire, ne pouvant pas se défendre, trop affaiblie. Deux mois plus tard, elle sait qu'elle est enceinte. Elle est furieuse et le déteste. Je ne me pardonnerai jamais de m'avoir mise enceinte.
Jamais, vous m'entendez?
Elle a eu un fils, Edmond. Françoise est furieuse et le déteste. Elle le lui dit. Je ne peux pas m'occuper de lui,
donne-la à une nourrice. Je suis trop faible.
Non, madame, vous vous occuperez de votre fils, de notre héritier.
Le mari, maintenant, veut s'occuper de tout. Et pour cela, il faut qu'il ait les mains libres. Il veut chasser le régisseur. Un jour, il le voit vers la mairie avec Patrick. Il va vers eux et dit au régisseur : « On vous a dit de ne pas vous occuper de ce débile. Il fait rien de mal, monsieur. » « Si, monsieur, vous faites de mal. Car pendant que vous vous occupez de lui, vous ne faites pas autre chose. » Pas votre travail. Pour mon travail, vous n'avez rien à me reprocher, monsieur. Oh, que oui! Vous qui dites que l'on n'a rien à vous reprocher, venez avec moi. L'enfant les suit aussi. Il lui montre des paquets de bois mal rangés, une charrette qui traîne dans la cour de l'office, et dans la cour il lui dit :
« Alors, mon ami, c'est pas grand-chose, monsieur. Vous me cherchez des noises pour si peu. C'est vous qui le dites. »
Le régisseur lui dit : « En réalité, monsieur, vous cherchez surtout à me faire partir, parce que j'ai le métier pour ce pauvre enfant. »
« Un débile. »
L'enfant lui dit : « C'est pas débile. Et vous ne ferez pas partir le régisseur. Je suis chez moi. » J'entends la main pour le gifler. « Je n'ai pas le droit de me battre. Mais pas mon père. » Et se met à crier : « Écoutez tous. Il veut chasser le régisseur parce qu'il m'aime bien. C'est pour faire du mal. Ma mère a un autre fils. Il me rejeter. » Les voleurs claquaient, les fenêtres se sont ouvertes, les gens regardent. Ce sont les gens du service. Jean abandonne, dit au régisseur :
je vous interdis de voir ce jeune homme, cet enfant, de vous occuper de lui.
Patrick lui dit : si vous le renvoyez, tout le village saura pourquoi. Vous le faites, parce qu'il m'aime bien.
et qui s'occupe de moi, pour éviter que je sois comme une bête. Pour éviter que je vive comme une bête. Il est très ému. Jean le regarde avec des yeux haineux et part. Ils se voient malgré tout, le régisseur et l'enfant. De temps en temps, il voit sa mère qui se promène avec son frère dans le parc. Cela l'attriste. Il va vers elle.
Maman,
elle le regarde et lui dit :
va jouer, laisse-moi. J'en ai assez de m'occuper de celui-là.
Alors ils courent rejoindre le régisseur. Jean les aperçoit. Un après-midi que l'enfant est seul dans le parc, Jean le prend par la manche.
« Mais que faites-vous ? Chez moi,
je vais t'apprendre à obéir. » Et il le pousse, l'entraîne jusqu'au commun et le pousse dans une grande déserte. L'enfant se débat, crie, hurle,
au secours, au secours. Ouvre-moi.
Non, tu resteras ici jusqu'à ce que tu obéisses. Jean, en emportant la clé avec lui, s'éloigne. L'enfant tape et hurle.
Au secours! Au secours! Au secours! Au secours!
Puis, d'épuisement, s'endort. Thank you.
il est réveillé par un bruit. C'est la porte qui s'est entrebâillée pour laisser passer un bout de pain et une cruche d'eau. Le régisseur cherche l'enfant. On lui dit que son beau-père l'a mise à la grange. Il va lui parler derrière la porte.
C'est moi, Patrick. Il faut me sortir d'ici. Je t'en supplie.
Ne t'en fais pas. Je vais parler à ton beau-père. Malheureusement, le beau-père est parti et a donné l'ordre de ne pas se faire sortir leur petit. C'est le père Thibault qui lui apporte à manger une fois par jour, mais il ne veut pas libérer le petit. Le régisseur va voir l'enfant tous les jours et le console. Il a peur qu'il tombe malade. Il veut lui faire passer une couverture, mais le père Thibault refuse. Jean revient une semaine plus tard. Sa sœur lui dit : on change beaucoup dans le pays à cause du fils que tu as enfermé. Certains disent même que les gendarmes devraient venir voir. Tu oublies une chose. C'est qu'on est à la campagne ici, et que tout se sait. Alors fais attention, s'il arrivait quelque chose au petit, tu auras des ennuis.
Ce petit débile, il commence à m'agacer.
Jean a libéré l'enfant. Il est sale, maigre, les gens le voient. Jean dit à un domestique de le laver, l'habiller de propre et de lui donner à manger.
Puis tu le rapportes au Thibault.
Patrick, avant de partir avec les domestiques, lui dit : « Mais pas le droit de me faire ça. Je suis chez moi ici. » Le temps passe. Le régisseur et Patrick continuent à se voir. Ils donnent des cours de français et de mathématiques. Ferdinand a beaucoup d'affection pour le petit. Il l'aime comme si c'était son fils. Plus l'enfant grandit, plus il forcit, plus il est fier. Et en même temps, il a peur, car en grandissant, l'enfant change de caractère et peut-être qu'il ne le voudra plus comme ami. La mère s'occupe de moins en moins de ses affaires. Son mari lui a dit qu'il la déchargeait de tout et il est souvent en voyage. Elle reste avec Diane. Sa Diane passe des nuits ensemble à se faire des mamours. Le petit dernier a une nourrice. Elle s'occupe plus de lui. Le temps passe. Françoise ne sort plus, la campagne ne l'intéresse pas. Lorsque son mari lui propose d'habiter Paris avec l'enfant et domesticité, et bien entendu, Diane, elle accepte. Surtout, ne te fais pas de soucis pour les affaires, ma chérie. Je suis là et je m'occuperai de faire le relais entre la province et Paris. Ma sœur à Paris recevra mes instructions. Heureuse, elle part avec toutes ses affaires et Diane, le petit et les domestiques. Elle ira vivre dans l'appartement de son mari dans l'île de la Cité. Là, les deux femmes vivront ensemble la plupart du temps dans la chambre de Diane. Françoise lui dit, après l'amour, les hommes ne savent pas faire l'amour. Il n'y a qu'une femme qui peut vraiment donner du plaisir à une femme, car elle connaît les secrets du corps féminin. Les hommes, non, sont incapables de se voir ce que nous ressentons. Jean est décidé de profiter de l'absence de sa femme pour régler le problème du fils aîné de celle-ci. Il en a assez de voir le régisseur aller venir. Il semble nargué. Il envisage quelque chose contre lui. Il enrage et voue une haine sans limite pour cet homme qu'il a humilié devant tous les gens du château. Un jour qu'il est dans la cour, il voit le régisseur rentrer dans la grange. Il fait très chaud. Nous sommes en début d'après-midi. Les gens font la sieste chez eux. Jean transpire. Le régisseur ne sort pas de la grange. Décide d'y aller. Il est entré dans la grange. Il y fait sombre, une chaleur étouffante, une poussière dans l'air provoquée par la paille mise en botte au fond de la grange. Ses yeux se sont habitués. Il cherche où pourrait être le... pourrait être le bougre. Enfin, il le voit endormi. Allongé sur les bottes de foin. Sensation de dégoût le prend. Il est trop beau endormi. Oui, Ferdinand est un bel homme. Bien fait, le visage doux. Il se trouve là à côté de lui. Ce dégoût, c'est de la jalousie. Ou provoqué par elle. Il regarde quelques secondes. Il est là endormi, inconscient, sûr de lui. Il le nargue donc. Jean regarde autour de lui, le visage mauvais. Non, personne, pas de bruit. Peut-être que cette occasion ne se reproduira plus. C'est décidé. Il court prendre une manche de pioche. Proche de Ferdinand. Et de toutes ses forces, il donne un coup sur la tête. Son corps a sursauté et retombé. Les yeux ouverts qui sont restés fixes. La bouche aussi. Le coup a été très fort. Jean est en sueur. Il tremble. Regarde autour de lui. Voit une pile de bois. Il prend le corps par les pieds. pour le déposer contre la pile, puis fait tomber Igourdin. Et sort de la grange. Lorsqu'il sort, il est vu par Patrick. Lorsque le corps a été retrouvé le soir, Patrick sait. La mort du régisseur a été considérée comme une mort accidentelle, et Patrick sait que c'est son beau-père qui l'a tué. Il a peur de lui, mais n'ose pas de le dénoncer et il se cache de lui. Jean pense à lui. Il est fier d'avoir réussi son crime sur le régisseur. Pour le fils, il faudra attendre un peu pour ne pas réveiller les soupçons. En attendant, il faut le surveiller et donner à Thibault de faire travailler le petit.
Je ne veux pas de bouche inutile ici. Vous lui donnerez à s'occuper des cochons, poules, et à faire les légumes dans le jardin.
L'enfant se soumet car il ne se sent pas assez fort. Il ne se sent pas assez fort pour braver son beau-père, mais garde sa vengeance dans son corps. Il pense constamment à Ferdinand et cela l'aide à supporter ses peines. Il veut grandir et être suffisamment fort pour réagir et venger son ami. Il se lève dès 4 heures pour s'occuper du jardin, puis des poules et des cochons. Il va garder les vaches l'après-midi. Là, dans les champs, loin de tout, il emmène un livre, n'importe lequel, du moment qu'il puisse lire pour ne pas oublier. Ce sont de vieux livres que Ferdinand lui a prêtés pour apprendre à lire. Des livres que les colporteurs vendent. Livres populaires remplis de contes, histoires édifiantes, de fables. Le soir, il traite les 10 vaches. Puis va au jardin. Après la soupe du soir, il aide la mère Thibault à ranger la maison et va se coucher à 22 heures, fatigué. Les repas sont frugales. Les Thibauts sont devenus alcooliques et passent leur temps à boire, mais gardent suffisamment de lucidité pour surveiller le petit. Le temps passe. Patrick grandit, embellit malgré la vie qu'il mène. Ses vieux vêtements ne peuvent cacher la beauté de son corps, la longueur et la finesse de ses jambes. Les traits de son visage sont restés fins. Les divers travaux n'ont ni alourdi les bras, ni donné une peau rougeâtre à ses mains. Il est devenu taciturne. Et pour parler à qui? Mais, au fond de lui-même, il est resté le même. Lorsqu'il est seul dans les bois, il se met à courir comme un fou, s'arrête d'un coup, et crie de tous ses poumons. Je le déteste! Je le déteste! Je le déteste! Avec les yeux qui lui sortent de la tête. Vieilli, c'est une grosse femme aux mouvements lents. Chaque matin, elle se regarde de longues heures dans son miroir pour structer ses rides en soupirant. Elle se pare de bijoux car elle s'est prise une folie pour les parures et le luxe. Dépense beaucoup avec son ami. Elle voit peu son mari et l'enfant grandit loin d'elle. Il se porte bien et ne parle jamais de son autre enfant. Pierre pense toujours à le supprimer. C'est devenu une idée fixe pour lui.
C'est une enfant délicieuse.
Elle est plus que cela, Kontrowski. Elle est amoureuse de vous.
Elle ne l'est pas.
Je vous assure que si.
Mais je n'ai rien fait qui puisse lui laisser. Nous n'avons même pas abordé le sujet.
Vous l'aimez?
Oui, enfin, disons que je l'aime bien, mais...
Pas plus que cela.
Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ce n'est qu'une enfant.
Mais qui croit que vous l'aimez?
Oh, non.
Je savais que vous ne l'aimiez pas.
Un de ses voyages à Paris, Jean est invité par les beaux-parents à une soirée. Là, il voit une femme qui lui semble de toute beauté. Elle est grande, mince, avec de belles formes, des cheveux qui ondulent et qui descendent jusqu'au dos et a un regard éclatant, avec une peau blanche et de mains d'immenses yeux bleus, des lèvres sensuelles, le visage d'une très grande beauté. Elle porte une robe noire. Il est ébloui par cette femme et passe des heures à la regarder. Venir, aller, danser,
Il veut absolument savoir qui elle est, mais ne sait comment faire. Les heures passent, il en est malade, la gorge serrée, tendue. Il a vraiment le coup de foudre, comme l'on dirait de nos jours. Enfin, il ose demander à son beau-père qui elle est.
Qui est cette rousse? Elle me rappelle une de mes clientes.
C'est Madame Charlotte Péricole. Venez, je vais vous présenter.
Dit son beau-père, tremblant, ayant peur que ça se voie. Le beau-père lui dit.
Madame, permettez-moi de vous présenter mon gendre, Monsieur Jean Dupré.
Enchanté.
Madame, il me semble vous connaître. N'étiez-vous pas à la vente des deux gars?
Non, monsieur, je ne vais jamais dans les salles de vente.
Ah, pourquoi, madame?
Parce que je n'ai rien à vendre ou à acheter.
Le beau-père se retire.
Je vous laisse.
Je suis veuve, monsieur, et mon mari m'a laissé que peu de choses.
Oh, madame,
elle soupire.
Et oui, il était plus vieux de moi que de 20 ans et jouait beaucoup. Moi, je ne suis issu que d'une vieille famille aristocratique sans grande fortune. Alors, comme vous voyez, je n'ai rien.
Vous avez votre beauté, madame.
Merci, monsieur, mais cela n'aide pas à payer les créanciers. Mais ne parlons plus de tout ceci. Faites-moi donc danser. Je ne suis plus en deuil depuis 3 mois, et la danse, j'en ai besoin pour oublier.
Je suis à votre service, madame, et l'amène danser.
Elle lui dit en dansant.
Ne parlons plus de toute la soirée, de choses désagréables.
Je vous le promets. Il est pris par la beauté, ce visage si près de lui, les cheveux qui le frôlent, son odeur, son corps, tout l'enivre. Absolument tout. Passent toute la soirée ensemble à discuter, danser.
Ah, enfin te voilà. Ta mère vient d'arriver à l'instant. Elle t'attend dans la salle à manger.
Kitty, je vais la rejoindre. Puis-je te parler, Kitty?
Toi, demain, nous avions prévu de faire des tas de choses. Une autre fois, peut-être.
Écoute, Dolly, je ne peux pas rester. J'ai gâché.
Puis, il la raccompagne jusque vers chez elle. Un immeuble qui a été beau, mais qui se dégrade. Ils se sont redit au revoir sur le trottoir en se promettant de se revoir. Il est fou d'elle.
lorsqu'il retourne chez lui, il voit sa femme, cette chose grosse, molle, qui ne pense qu'à acheter des bijoux et à faire des santés avec sa sœur à lui. Cette chose dolente, qui passe des journées au lit, à manger des bonbons et à caresser sa sœur. Il en est dégoûté et se dit que ce n'est qu'un tas de chair immonde, molle, dégoulinante, vicieuse, dépensière. Et à Paris, là-bas, Charlotte, belle, douce, jeune, femme jusqu'au bout des ongles, avec sa garce, sa beauté, ses cheveux, il ne rêve que d'elle.
Radio Canyon vous a présenté dans ses L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Sappho, 19e, dont c'était la 5e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.